Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à vous les curieux, c'est votre émission préférée du soir jusqu'à 22h avec Sidonie et Thomas.
Comment ça va?
Vous allez bien Thomas?
En pleine forme?
Très en forme.
C'était bien la fête de la musique hier?
Oui, on a beaucoup chanté et dansé.
Ouais, en tout cas c'était un beau spectacle, merci.
C'est sympa de le dire.
Encore, la curiosité, ce sont des histoires extraordinaires, des sagas musicales, des destins hors normes, de l'histoire, de la science amusante et puis aussi l'envie d'en savoir plus sur notre vie quotidienne.
Comme Con, notre invité, nous raconte l'omniprésence des produits sucrés dans les rayons de nos supermarchés.
On s'accorde en général pour dire que si vous retirez tous les produits qui contiennent du sucre dans un supermarché, alors soit bien sûr les produits normalement sucrés, les confitures par exemple, mais aussi tous les produits où on a ajouté du sucre sans vous le dire, les pizzas, les soupes, minutes, des sauces, plein de choses, eh bien, on retire 80% des produits. Il en reste que 20% sur les linéaires.
Une pépite choisie dans l'émission de lundi. Il y en aura d'autres ce soir avec donc cette invitation au voyage. On va se rafraîchir dans le Grand Nord canadien, traverser aussi l'Atlantique dans un porte-container ou suivre des Néo-Zélandais. Drôle de métier, ils sont chasseurs de graines.
Et puis, il vient de sortir pour fêter son bicentenaire. On va découvrir l'histoire du petit Larousse illustré. Quand a-t-il été inventé? Par qui et pourquoi? Comment est-il fabriqué? Comment ces nouveaux mots sont choisis? Est-ce qu'ils...
C'est un bon accessoire pour les chiffres et les lettres.
Ah oui, regardez. Ouais. Vous avez quoi? A, B...
W.
On est mal parti. Bon, allez. Tout ça, les réponses viendront vers 20h40 sur RTL.
Tout de suite, on découvre le métier d'avocat d'État. C'est quoi un avocat d'État? Réponse tout de suite.
RTL. Après en avoir délibéré, la Cour vous déclare non coupable.
C'est votre première heure de gloire, Léo.
Et j'espère bien que ce ne sera pas la dernière.
La curiosité est un vilain défaut.
Je veux que tu étudies ma société.
Je travaille pour la Direction nationale des renseignements. Nous menons une enquête sur les activités de votre client.
Jusqu'à 22h.
Vous cherchez à me faire peur, c'est ça?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce qui compte, c'est de les prendre.
Un extrait du film L'avocat avec Benoît Magimel. Alors, ils défendent des pays ou des hauts fonctionnaires lors de procès sensibles. On va découvrir ce métier d'avocat d'État avec Maître Olivier Pardo. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez bienvenus.
Bienvenue.
À la curiosité. Et Yves Deray, on vous a déjà reçu. Vous êtes rédacteur en chef du Parisien Magazine aujourd'hui en France.
Bonsoir.
Bonsoir. Et vous consacrez un grand papier au ténor d'État. Alors, on va découvrir ce métier qui est assez. Plutôt inconnu. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas le fonctionnement de cet emploi. On a un avocat sous le coude. On va vous poser la question, Maître Pardo. C'est quoi avocat d'État?
Ben c'est quand lorsque votre client est un État. Un État confronté à des procédures qui peuvent être des procédures pénales. On en connaît quelques-unes, notamment en France, puisqu'il y a une grande affaire qui s'appelle l'affaire des biens mal acquis. Où, après une saga extrêmement longue, où se mêlent la relation extrêmement vive entre Nicolas Sarkozy et les juges d'instruction, alors même que généralement les États étaient protégés, une association a été reconnue comme recevable par la Cour de cassation pour pouvoir agir contre des États étrangers en France à l'occasion de biens que les dirigeants de cet État ont acquis en France.
On parle de quel État? Après, on développera plus l'affaire, évidemment.
Tout le paradoxe, c'est qu'on parle justement d'États africains. Mm-hmm. Pour la plupart, la Guinée équatoriale, le Congo, d'autres États, le Gabon. Et que ça pose un vrai problème, parce qu'on se dit que quelque part, la France a un regard sur ces pays qui est encore un regard de métropole vis-à-vis d'autres États qui étaient d'anciennes colonies.
Vous défendez qui dans ce dossier, Maître Pardo? Alors, pour que ce soit clair pour nos auditeurs.
Je vais vous dire, je défends la Guinée équatoriale, mais je défends aussi d'autres États qui n'ont rien à voir avec les biens mal acquis, comme l'Azerbaïdjan. Je suis intervenu aussi pour le Maroc, pour toute une série d'États, et on est confronté à des problèmes très spécifiques parce que, évidemment, l'État, ce n'est pas un citoyen comme les autres.
Alors, question vraiment basique, quand vous défendez un État, Maître Pardo, qui vous appelle? Ce n'est pas « Allô, bonjour, c'est l'État » C'est forcément
c'est
un humain.
C'est le président de Guinée.
C'est le président.
C'est comme si demain, j'aurai la chance de défendre RTL, qui m'appellera? Le président de RTL, le directeur juridique de RTL. Mm-hmm. Ben là, c'est la même chose. qui m'appelle, le président de la République, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, parce que un État, comme toute personne non physique, s'exprime par des personnes physiques.
Maître Pardo, comment on choisit un tel métier, avocat d'État? C'est une spécialité qui se décide assez rapidement. Et pourquoi vous l'avez choisi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer?
C'est pas tellement vous qui le choisissez, c'est eux qui vous choisissent. C'est-à-dire, c'est plutôt l'État qui vous choisit. Et c'est plutôt un honneur, parce que vous vous dites que vous participez à une approche d'un justiciable qui n'est pas comme les autres, qui est différent des autres, avec des contraintes différentes des autres.
Qui est ultra puissant souvent ?
Qui est ultra puissant, mais vous savez, c'est ce qu'on pense. Mais aujourd'hui, face à un juge d'instruction, même les anciens présidents de la République, et face à un procureur de la République, même le ministre de la Justice, même en France, à quelques fragilités, ça ne vous aura pas échappé.
Oui, on l'a vu avec la démission du ministre de la Justice, François Bayrou. Yves Deray, pour monter ce dossier pour le Parisien Magazine aujourd'hui en France, est-ce que ça a été compliqué? Parce que ce sont des métiers dans lesquels il y a forcément aussi du secret d'État. Donc est-ce que ça a été difficile?
Alors écoutez, on imaginait en fait que ce serait très très difficile, et finalement on a trouvé quand même des interlocuteurs qui étaient prêts à parler, à dire des choses, et vous voyez que ce sujet est plein d'informations finalement, alors que il y a en effet de la confidentialité dans ce métier d'avocat, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et je pense que de toute façon les avocats qui ont bien voulu nous parler, dont Olivier Pardo, nous ont pas tout dit, hein. Il y a des choses évidemment, j'imagine, qu'ils gardent secrètes parce que ils ont des relations d'intimité avec des dirigeants, et ils sont détenteurs de certains secrets, et il y a un secret de la défense parfois.
Pour parler de votre métier au quotidien, Olivier Pardo, vous dites dans l'article qu'il faut donner de sa personne. Mais ça veut dire quoi? Que ce que vous incarnez est important pour le pays?
Oui, parce que moi, par exemple, avant d'être avocat, j'étais juge d'instruction. Et ensuite, j'étais conseiller d'un ministre de la Justice. Donc pour eux, c'était important que j'ai à la fois cette vision institutionnel et la vision du métier d'avocat. Puis donner de sa personne, ça veut dire que quand le président d'un pays vous appelle, il ne vient pas à votre cabinet pour vous voir. Vous avez intérêt de prendre l'avion et de venir.
Et ça se passe comment, les rendez-vous en Guinée équatoriale?
Alors, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que parfois vous arrivez le lundi, vous êtes reçu le jeudi ou le vendredi.
Voilà. Mais vous restez, vous ne plaignez pas.
Donc c'est une école de la patience. Est-ce que les États sont mauvais payeurs? Tiens, c'est l'une des questions que l'on va poser à nos invités dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
La curiosité. Vous écoutez RTL. Première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On découvre un métier méconnu avec Sidonie. On doit vous avouer qu'on n'avait pas trop réfléchi à l'existence des avocats d'État, des ténors du barreau qui défendent des États, parfois des hauts fonctionnaires. Et on découvre ce métier grâce à nos partenaires du Parisien Magazine aujourd'hui en France. C'est Yves Deray qui nous accompagne, et Maître Olivier Pardo, l'un de ces avocats d'État. Vous ne faites pas que ça. J'imagine qu'il n'y a pas suffisamment de dossiers pour vivre de cette spécialité du métier d'avocat.
Alors, il y aurait suffisamment de dossiers, mais il faut avoir une diversité, ne serait-ce que pour bien maîtriser les procédures judiciaires françaises et tous ces éléments. En réalité, on vient vous chercher parce que vous êtes spécialisé dans votre pays, parce que vous êtes reconnu dans votre pays. Sinon, on ne vient pas vous rechercher.
Mais donc, ça veut dire quoi? Vous faites plutôt du droit pénal, ou alors plutôt du droit des affaires, plutôt
alors
du...
Moi, j'ai eu le...
Pour comprendre quelle capacité, quelle spécialité on recherche.
J'ai eu été juge d'instruction, puis quand je suis devenu avocat, j'ai fait du droit des affaires, et la Providence a voulu que un jour le droit des affaires et le droit pénal se rejoignent, ce qu'on appelle les affaires aujourd'hui.
D'accord.
Jadis, vous aviez des avocats spécialisés en droit pénal qui faisaient que ça, et les avocats spécialisés en droit des affaires qui faisaient que ça. On est quelques-uns à avoir inventé un métier qui est un croisement entre le droit pénal et le droit des affaires, avec une dimension de dossier sensible, et vous aurez remarqué qu'il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui qui défrayent la chronique notamment.
Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à la question, donc je la pose aussi à Yves Deray. Est-ce que les États sont mauvais payeurs?
Écoutez, ils payent pas en avance, hein, visiblement. Ils ont souvent des délais très longs. L'Irak, par exemple, a 3 ans de retard dans le règlement de ses factures. Ah oui. Mais ils payent.
Donc, quand on dit « ils », c'est qui paye ? C'est les citoyens qui payent ?
Bien sûr, oui. C'est les citoyens qui payent. Enfin, c'est l'État qui paye. Et donc, le budget de l'État, les contribuables. Mais en même temps, bon, faut bien défendre l'État. Mais c'est vrai qu'en général, néanmoins, je crois qu'ils payent. Et qu'ils payent plutôt bien, quand même. Parce que c'est plutôt dans la fourchette haute des honoraires. On parle parfois de 500, entre 500 et 800 euros de l'heure. Mais ça, Olivier Pardo, peut-être...
Vous confirmez, Maître Pardo ?
Alors, je confirme le taux horaire, mais je confirme aussi... un temps qui était un temps très différent. Il y avait une mythologie, si vous voulez, c'est-à-dire que vous arriviez... moi, je me souviens de vieux confrères qui s'occupaient de cela, qui disaient « Surtout, ne demande pas d'honoraires et tu verras arriver un chèque. Comme cela, le président aura décidé. » Tout cela est un ancien monde. En réalité, aujourd'hui, vous avez des administrations qui sont pointilleuses, qui demandent à voir vos temps horaires, si vous avez bien passé des heures précises. Il ne faut pas prendre ces états-là comme des états qui seraient secondaires ou qui n'auraient pas une vision très précise de cela. Juste une anecdote. Je rencontre pour la première fois un président. Je lui parle de son dossier. Je suis accompagné de l'ambassadeur. Et je lui parle de son dossier, de ce que j'allais faire, de comment je voyais les choses, de la stratégie. Et puis, il y a un moment de silence. Et l'ambassadeur me dit, il faudrait peut-être que vous y alliez maintenant. Je lui dis, mais d'aller sur quoi ? Parlez-lui des honoraires. Moi, je me disais, je n'allais pas lui dire combien je prends. Et donc, la deuxième partie de l'entretien avec le président s'était déroulée sur quel budget j'envisageais, qu'est-ce que je voyais comme tarif horaire, comment je facturais, etc. Donc, il y avait une vision réelle, concrète, de ce que cela coûtait, le temps où il y avait des valises de billets, où les avocats étaient payés de manière comme cela, tout à fait surréaliste, n'existe plus.
Vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, Maître Pardo, le procès des biens mal acquis qui s'est ouvert il y a quelques jours au tribunal correctionnel de Paris. On va essayer d'entrer dans cette histoire et de la comprendre. Déjà, qui est mis en cause et pourquoi ?
Alors, sont mises en cause beaucoup de personnes, c'est-à-dire à la fois des dirigeants, mais pas n'importe quel dirigeant, parce que vous savez que, par exemple, les présidents des États ont une immunité absolue. Donc, eux ne peuvent pas être poursuivis.
Ça se joue entre qui et qui, en gros, juste pour qu'on puisse déjà...
Alors,
quel pays, quel président ?
Guinée équatoriale, Gabon, le Congo. C'est concentré sur l'Afrique.
On va pas pouvoir tout raconter, mais si on dit par exemple le fils du président de la Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'il aurait mal acquis ? Vous êtes son avocat, donc c'est peut-être pas vous qui pouvez répondre à la question.
Je suis pas son avocat, je suis l'avocat. C'est un autre avocat, c'est un excellent confrère qu'il défend, mais je connais bien le sujet parce que j'étais l'avocat de l'État dans ce dossier. Et qu'est-ce qu'on lui reproche ? On lui reproche d'être riche alors que on pense que s'il est riche, c'est parce qu'il aurait détourné des fonds de son pays. Et ça pose, très vite, ça pose un vrai problème. En quoi la France peut dire qu'il y a eu une infraction qui s'est déroulée dans un autre pays souverain, avec une justice, et venir ainsi juger...
Vous êtes en train de plaider, là. Vous prenez sa défense.
Non, mais bien sûr. Ben, je crois vraiment...
C'est votre rôle.
Non, mais je crois vraiment que c'est un problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Est-ce que, par exemple, ça viendrait à l'idée d'un pays, je prends d'un pays quelconque africain, de venir juger le fils du président, on va prendre des anciens présidents, Hollande, parce que on considère que s'il achetait un bien dans le pays étranger, c'est sans doute parce qu'il aurait détourné des fonds en France. Tout le monde trouverait ça scandaleux.
Yves Derec, juste parce que j'essaye d'avoir la liste, qu'est-ce qu'il a acheté en France ? C'est assez impressionnant quand même.
Il a juste un petit hôtel particulier à Venifoche qui doit faire quelque chose comme 4 et 5000 mètres carrés. On parle d'une centaine de pièces avec des salons orientaux, avec, etc. Donc bon, voilà.
Il a un bon niveau de vie.
Il a des voitures de luxe quand il est à Paris. Oui, on le voit plus souvent place Vendôme quand même qu'à Barbès. Vous voyez, bon, il a un train de vie et comme ça, un style de vie qui n'a pas ranger ses affaires, si vous voulez, ce monsieur Obiang.
Bon, on lui reproche en gros d'avoir... On le soupçonne d'avoir pillé les caisses de son pays, c'est ça ?
Oui, c'est ça, je crois que...
Vous y allez.
On le soupçonne, je crois, de détournement de fonds publics.
J'essaye de résumer.
Et voilà, après, c'est des soupçons. Évidemment, il y a un procès, il y a une procédure. Et par ailleurs, je crois que l'un de ses avocats, là, pour le coup personnel, argue quand même de l'immunité parce qu'il est vice-président de son pays.
Oui. Et moi, j'ai assisté à la perquisition
des juges dans cet hôtel particulier.
Dans cet hôtel particulier, qui, au passage, était quand même l'ambassade de Guinée équatoriale en France. Donc, vous apprécierez d'aller perquisitionner une ambassade. Mais c'est un détail. Et les juges d'instruction, ils étaient quand même à la découverte en se disant « Ah là là, mais comment il a pu acquérir ça ?» J'entendais quelque part comment ce noir, pour pas dire autre chose,
comme pouvait... vous y allez, maître.
Ah ben, je me gêne. comment pouvait-il, cet Africain, avoir cette richesse-là ? J'étais un peu mal à l'aise dans ce comportement. J'ai pas vu grand-chose sur les présidents chinois, sur les présidents du monde arabe, etc. Bon. Ça m'a un peu gêné.
On a compris l'axe de défense, parce que ça fait deux fois que vous l'employez, cet argument.
La vérité, vous savez, ça se répète. Ouais.
On va continuer de découvrir ce métier qui est assez fascinant, et notamment, quelles sommes ? Est-ce que on se retrouve avec des dossiers, des États, et des sommes en jeu faramineuses ? 10, 20, 30, je ne sais pas, 50 milliards d'euros. Restez avec nous sur RTL.
Avec RTL,
vous écoutez RTL.
RTL. 20h, 22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Qui défend les États en vous présente les avocats d'État, une spécialité rare, secrète et passionnante avec maître Olivier Pardot et Yves Deray, rédacteur en chef du Parisien aujourd'hui, Parisien Magazine, pardon, aujourd'hui en France pour
attention.
Un article, attention, en partenariat.
Faut tout dire dans l'ordre.
RTL, vous n'écorchez pas le nom de notre station, faites attention au nom de votre journal. Vous êtes combien à peu près, ou en tout cas, il y a combien d'avocats d'État, c'est à vous que je pose la question, Yves Deray, à peu près, en France, ou à Paris, s'ils sont surtout...
Bon, plutôt à Paris, je pense, voilà, qu'en province quand même. Et il y en a quelques dizaines, ça doit être 20-30 quoi, qui ont des voilà, pas plus, hein, qui ont des États comme clients.
Mais attention,
ils ne font
que
pas
ça.
Que cela, hein, ils ne font pas que cela. Et après, les dossiers sont, je pense, mais ça, je parle aussi sur le contrôle d'Olivier Pardot, mais je crois que les dossiers sont très variés. Il peut y avoir un conflit sur une route, une infrastructure, il peut y avoir, alors, par exemple...
Un État qui doit répondre, par exemple, à un citoyen, c'est ça, ou...
Ou moins cela, mais il y a parfois un travail de lobbying, par exemple, qui est fait auprès des parlementaire sur un dossier, sur un texte de loi. Par exemple, le maître Aslani défend l'Indonésie sur un dossier qui concerne l'huile de palme, puisqu'il y a eu un texte qui veut fiscaliser lourdement l'huile de palme. Eh bien, là, il y a un travail qui n'est pas un travail devant les tribunaux, mais qui est un travail de lobbying auprès des parlementaires, qui est un travail d'information scientifique, commerciale, etc., pour convaincre les parlementaires de renoncer au vote du texte. Et donc, le texte a été d'ailleurs retiré.
Mais c'est du lobbying, là, c'est plus être...
C'est du lobbying, mais il y a des avocats qui sont auprès des États ont un travail de conseil, ont un travail parfois de plaidoirie, mais ont un travail aussi de lobbying.
Maître Pardot, il y a tant d'affaires que ça ?
Je vais vous donner un exemple. L'État d'Azerbaïdjan, dans une émission qui s'appelle Cache Investigation, sur France 2, il y a eu une émission sur cet État, s'est fait traiter de pire dictature du monde.
Il y a match avec la Corée du Nord, c'est ça ?
Franchement, une dictature qui serait venue, qui aurait signé la Cour européenne des droits de l'homme, c'est paradoxal.
Donc c'est quoi ? C'est une attaque en diffamation, en l'occurrence ?
Donc l'État a décidé d'attaquer en diffamation. D'accord. France 2. C'est original. Le Maroc a également attaqué en diffamation pour des attaques contre le Maroc. Et là, il y a un grand débat juridique, je passe là-dessus, pour savoir si un État est recevable à être diffamé ou pas.
Et Yves Deray, est-ce qu'il y a des règles de sécurité particulières quand on est avocat d'État ? Vous avez rendu visite à un certain nombre de cabinets d'avocats.
Le cabinet peut-être un peu le plus impressionnant, c'est celui d'un avocat franco-iranien qui s'appelle Ardavan Amir Aslani, qui est un personnage en couleur quand même, un homme de réseau qui fréquente tous les clubs UP de la capitale.
Et cabinet qui se trouve où déjà pour situer
son cabinet, on peut le dire, il se trouve avenue Montaigne. C'est vrai que son couloir est sans doute plus large que votre studio ici à RTL, donc voilà, il y a des œuvres d'art un peu partout, c'est fleuri avec des orchidées, etc. chaque jour,
c'est luxueux quoi,
c'est hyper luxe. Et il y a en effet des mesures de sécurité un peu particulières qui m'ont un peu surprise, je dois vous dire, puisqu'il y a le soir des rondes qui sont faites autour du cabinet, et par exemple sur le plan informatique, les ordinateurs, certains ordinateurs sur lesquels sont tapées certaines conclusions un petit peu sensibles, ne sont pas reliés à Internet parce que il y a une crainte de piratage des informations. Donc vous voyez que, en effet, quand on est dans un... Lui, c'est un cabinet, Maître Aslani, qui a des clients, 70% qui sont des États. C'est vraiment le cœur de son activité. Mmh. Et donc, il est obligé de prendre des dispositions importantes.
On sait quels États il en parle facilement.
Oui, alors, ouais. Il y a la République de Bahreïn, il y a l'Arabie Saoudite, il y a la République dominicaine, vous voyez, et voilà, il intervient au Djibouti, il a eu l'Algérie à une époque, donc en effet, c'est vraiment le cœur de son activité.
Et je parlais des sommes en jeu juste avant la pause, et dans le papier du Parisien Magazine aujourd'hui en France, il y a notamment un dossier dans lequel on parle de 50 milliards de dollars, c'est ça? J'ai dit d'euros, mais c'était de 50 milliards de dollars.
C'est 50 milliards de dollars dans l'affaire Yukos, c'est cette affaire de cette grande entreprise russe.
Ouais. Et pétrolière,
pétrolière qui a été donc sabordée par le gouvernement russe parce qu'il y avait des conflits politiques, et les ex-actionnaires réclament à la Russie 50 milliards de dollars. Et donc cet avocat qui est dans ce dossier, Maître Pina, dit que lui, il a quasiment des dossiers qui sont toujours au-dessus du milliard.
Ça vous arrive aussi, Maître Pardo ?
Oui. Parce que ce sont des arbitrages internationaux. Alors là, ça ne concerne pas les juridictions françaises. Ce sont des arbitrages internationaux et ça concerne souvent les sociétés pétrolières. Et dans ces affaires-là, vous avez immédiatement des chiffrages qui sont extrêmement importants. Et vous avez par exemple un pays qui est spécialisé, qui est la Suède, dans lequel tous ces arbitrages se font. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une spécialité dans les conflits entre les sociétés privées et les États en matière pétrolière, et ça représente des sommes gigantesques, mais qui sont des sommes habituelles que vous retrouvez aussi entre sociétés du même type.
Donc vos concurrents sont suédois souvent, il y a des avocats suédois en face de vous.
À partir de là, on a toujours des avocats suédois parce qu'il y a une partie de la procédure qui est suédoise.
D'accord.
Et vous avez des avocats de tous les pays. Il faut savoir que les Américains ne sont pas aimés par les États comme avocat. Donc on est encore en compétition réellement avec les Anglais, pas tellement les Allemands, parce que là aussi les Allemands ont une culture des avocats qui est particulière, mais nos grands compétiteurs, ce sont les Anglais et les Français qui sont présents sur ce segment de la défense.
Maître Pardo, je crois que vous n'avez pas répondu à une question que je vous ai posée tout à l'heure, donc je vais la retenter. Pourquoi vous avez choisi ce métier? En tout cas, pourquoi ça vous plaît d'être avocat d'État? Qu'est-ce qui est excitant ou passionnant
ou intriguant? La proximité du pouvoir.
Non, parce que le pouvoir crée des comportements qui sont des comportements dont vous devez tenir compte avec grande subtilité. Je vais vous donner un exemple simple. Tout président, quand son État est poursuivi par un autre pays, notamment la France, se dit « je vais prendre mon téléphone, je vais appeler le président de la République ou je vais voir l'ambassadeur de France localement et je vais résoudre le problème ». Et aujourd'hui, la réponse que fait le président de la République, pas Emmanuel Macron, parce que je ne sais pas quelle réponse il fera, mais j'imagine que ça sera la même, en lui disant « mon cher ami, je ne peux rien faire parce que la justice est indépendante, regardez ce qui nous arrive à nous, les politiques ». Et à partir de là, il va falloir faire de la pédagogie. Parce que quand vous allez le voir, vous êtes la France, vous êtes la justice française. Et quand vous avez perdu, c'est pas facile d'aller expliquer à un président qui est réputé autoritaire que l'affaire en question, vous ne l'avez pas gagnée.
Merci beaucoup.
Merci infiniment, Maître Pardo. Merci à vous, Yves Deray, ténor d'État. Un article à découvrir dans Le Parisien Magazine aujourd'hui en France. Demain, en kiosque.
Tout à fait.
Vous écoutez RTL.